CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du Villefranchois.
Allez, bon début de semaine, bienvenue si vous venez de nous rejoindre, édition du magazine d'actualité. Bah, c'est tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, et ce lundi n'échappe pas à la règle. Les lundis, bah, c'est équilibre alimentaire et bien-être en CFM, équilibre alimentaire avec Karine Justeau. Bonjour Karine Justeau.
Bonjour David, bonjour tout le monde.
Nutritionniste intervenante en goût à Villefranche-de-Rouergue. Aujourd'hui, on va parler des OGM, est-ce que j'ai cru comprendre?
Puisqu'on a abordé un petit peu cette notion-là en parlant des poissons la semaine dernière, continuons ça à la lancer. Vous savez ce que ça veut dire, OGM,
Organisme génétiquement modifié.
C'est ça.
J'ai bien répondu, j'ai gagné un voyage à New York
Un petit bon point, déjà, dans un premier temps. On verra plus tard.
Je rejouerai. Hein.
C'est ça, il faut rejouer. Alors, effectivement, c'est un organisme. Je précise juste que cet organisme génétiquement modifié peut être végétal, animal ou même concerner des bactéries. D'accord. Donc, et que c'est un organisme dont on modifie volontairement. Cette notion de volontariat est importante, volontairement le matériel génétique, l'ADN. C'est donc un transfert de gènes qu'on va faire. L'objectif de ça, c'est d'introduire des nouvelles caractéristiques au produit, finalement.
Ou d'en retirer.
Ou d'en retirer, exactement. Alors, prenons l'exemple de la pomme de terre pour être bien clair. En fait, quand je dis on, c'est pas moi, c'est les gens qui s'occupent de ça. On sélectionne un gène codant pour la caractéristique qu'on va choisir d'isoler. D'accord, on va prendre la pomme de terre, on lui trouve une bonne caractéristique, on va l'isoler. Par exemple, pour la pomme de terre, on va isoler l'amidon modifié ou la résistance à certaines maladies, ce genre de choses. Ce gène que l'on a sélectionné est ensuite transféré dans le génome de la pomme de terre. Tout ça, c'est de la génétique. Ce qui va modifier à terme son matériel génétique, justement. Ensuite, la dite pomme de terre exprime ce gène et donc reproduit toutes les qualités qu'on a voulu y introduire. C'est assez simple en fait à comprendre. Alors, en alimentation, il y a deux applications possibles. Il y a soit ça va servir la production agricole, les cultures de maïs, de soja, de coton sont les premières cultures que ça va concerner. Et là, le premier objectif, c'est de développer une résistance à des insectes qui habituellement ravagent ces cultures-là, résister aussi à des maladies ou de tolérer, là ça va vous faire bondir, je vous connais David, ou de tolérer certains herbicides. Donc on va faire en sorte que les cultures ne meurent pas parce qu'on leur met par exemple du Roundup, d'accord, pour ne pas le citer. Deuxième application possible dans l'alimentation, améliorer les qualités nutritives des aliments, comme par exemple lutter contre les carences alimentaires. Alors chez nous, c'est vrai qu'on est moins concernés, mais par exemple, ça va être un riz qui va devenir plus riche en vitamine A ou en fer, ou des huiles qui vont être enrichies en tel acide gras, etc. etc. Vous voyez, donc ça peut servir dans des pays où il y a par exemple de la malnutrition. D'accord. En France, qu'est-ce qui se passe depuis janvier 2015, donc ça fait un an, et comme dans tous les autres États membres de l'Union européenne, la France peut choisir d'interdire la culture d'OGM sur son territoire. C'est déjà pas mal. Déjà en 2008, elle avait fait appel au principe de précaution. C'est à ce moment-là qu'on en avait le plus entendu parler. Elle avait fait appel au principe de précaution pour prévenir le risque environnemental. D'accord.
On en avait surtout entendu parler avec les faucheurs volontaires et l'emprisonnement de José Bové.
À l'époque, notre Aveyronnais. Mais à l'époque, en fait, on faisait ça, mais on ne savait pas, on n'avait pas de données scientifiques. On ne sait pas trop, en fait, sur cette histoire-là. En tous les cas, ça interdisait la culture d'OGM pour des fins commerciales. Mais malheureusement, ça n'interdisait pas les expériences en plein champ. Et ça, pour que les expériences en plein champ soient interdites, il aura fallu attendre juillet 2013. Donc ça veut dire que de 2008 à 2013, il y a quand même eu des expériences. En tout état de cause, si aujourd'hui il est interdit d'en cultiver en France, le problème c'est qu'on a le droit d'en importer. Et il y en a 70 qu'on a le droit d'importer dans l'Union européenne, que ce soit pour l'alimentation animale et ou pour l'homme, d'accord. Et le vrai problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, je vous l'avais déjà dit, me semble-t-il, ils ne sont obligatoires sur les étiquettes, sur l'étiquetage alimentaire, que s'ils dépassent les 0,9% de la quantité totale du produit. En deçà de ces 0,9%, il n'y a pas d'obligation d'étiquetage, d'accord. Donc, en plus, il n'y a pas étiquetage spécifique pour les alimentations qui sont issues des animaux d'élevage. Donc, par exemple, pour le lait, pour le fromage, pour certaines viandes, etc. Qui, ces animaux, seraient nourris avec des cultures transgéniques. Ça, voilà, il n'y a pas obligation aujourd'hui de le mentionner.
Puis on n'a pas suffisamment de recul aujourd'hui face.
Pour savoir.
Les méfaits sur l'organisme, voilà. Sur les animaux, sur l'humain, ces transformations. La nature nous a mis à disposition un certain nombre de produits.
On peut se poser la question. C'est vrai que aujourd'hui, on ne sait pas trop.
Nos anciens triaient les graines. D'ailleurs, on voit encore des champs avec des épis plutôt de blé, hein, un grand, un petit. Enfin, c'est le bordel. Mais c'est beaucoup de poésie aussi en même temps. Et on est sûr que ce champ-là n'a pas été génétiquement modifié. C'est du vrai, du pur.
On l'a toujours fait, comme vous disiez, à la main, essayer de sélectionner les... Mais ça, c'est normal, de sélectionner les meilleures espèces, les plus résistantes, etc. Maintenant, on était loin de la manipulation quand même. Sachez quand même qu'en France, il y en a un qui est autorisé, un OGM, c'est le maïs doux, qu'on trouve dans la farine de maïs, qu'on trouve dans certains pains, dans certaines céréales, dans certains biscuits apéro, etc., etc. Même de la charcuterie, des peaux bébés, on peut en trouver, des pains de mie, enfin dans tout un tas de produits aussi. Et le problème, c'est qu'on ne saura pas s'il y en a moins de 0,9%.
Et puis c'est une belle aberration en termes de culture, puisque c'est une plante très exigeante en eau, et on sait que c'est ce qui va nous manquer d'ici quelques années.
Exactement. Ben vous voyez par exemple, en 2014, il y avait quand même 181 milliards d'hectares de cultures de GM dans le monde. D'accord, ça fait beaucoup quand même. Ça représente 80% de la Chine, vous voyez. Et les premiers sont les USA, suivis du Brésil, de l'Argentine, du Canada. Non, c'est plutôt en Amérique. Et comme vous disiez, on n'a pas de recul, puisque le premier OGM, c'est pas si vieux que ça, ça date de 1996. Seulement. Et il y a 20 pays en voie de développement aujourd'hui et 8 pays industrialisés qui les utilisent. Ça représente quand même 60% de la population mondiale et 18 millions d'agriculteurs. Donc c'est énorme.
Si ça se trouve, on ne le sait pas encore, mais les OGM, ça va nous rendre plus beaux, plus intelligents, plus forts encore. En tout cas, des beaux mutants.
En tous les cas, le soja et le maïs représentent 80%. Donc c'est quand même important de le savoir. Juste, j'ai encore une minute, David, pour finir et savoir comment limiter finalement notre taux d'OGM. C'est ça la pratique qui est intéressante. Déjà, effectivement, a priori, l'agriculture biologique n'en a pas, d'accord. Alors toujours avec cette limite de l'importation ou des zones qui sont frontalières, évidemment. Au niveau des logos, alors autant quand il y en a, il n'y a pas d'obligation de l'écrire si on est à moins de 0,9%. Autant, on a un logo qui veut dire nourri sans OGM, donc pour les animaux. Vous savez comment il est, ce logo ?
Oh non, ça ne me dit rien. Enfin, j'imagine que c'est le logo OGM barré ou quelque chose.
Alors, c'est un rond vert. En fait, il y a marqué « nourri sans OGM » dans un rond qui est vert. Donc, on peut le rechercher également. Sachez aussi qu'il y a Greenpeace qui a fait un guide des produits qui ont ou qui n'ont pas des OGM, et qu'on peut même les trouver sur les smartphones avec un code couleur. Donc ça va nous permettre par exemple de comparer des marques, ou à l'intérieur d'une marque de comparer certains produits. Donc ça peut être intéressant si on est intéressé d'aller jeter un petit œil. Évidemment, plus on va aller vers des plats préparés et plus on peut se dire qu'on va avoir des OGM à l'intérieur, parce que plus il y a d'ingrédients, plus il y a de risques. Évidemment, toujours l'idée de plus on fait soi-même et mieux c'est. Et évidemment, plus on va choisir du hyper local, du made in France, et mieux, bien sûr, ça va être aussi.
Évidemment.
Voilà.
Les OGM, aujourd'hui, dans la chronique d'équilibre alimentaire, présentée par Karine Justo, nutritionniste à Villefranche-de-Rouergue. Votre actualité sur la page Facebook Karine Justo Diet News. La semaine prochaine, vous savez de quoi vous allez nous parler? C'est encore à l'étude, ou vous avez une petite idée?
J'ai bien parlé aujourd'hui. La semaine prochaine, je vous pose des petites questions. On fera un petit jeu.
D'accord.
Je choisirai le sujet dans la semaine.
C'est moi le cobaye la semaine prochaine. Et je serai là pour tenter de répondre à vos questions. Merci Karine Justo.
Avec plaisir, à bientôt.
Belle journée. La musique, et j'accueille dans les studios Delphine Henneke, naturopathe au magasin Obio le lundi. Oui madame, en CFM, on parle de bien-être et de mieux-être encore.
CFM, le mag. Tous les jours, 12h30. La vie du Villefranchois.